À quelle transformation écologique vous sentez-vous appelé? Bernard estime, il a résumé un peu cela en évoquant le programme Laudato si. Vous savez, le pape François a beaucoup insisté là-dessus. Brièvement, il dit éviter de se raconter des histoires. Le non-dit du discours écologiste, les conflits des puissances, des États et de l'armement, dépasser le désir mimétique. Il nécessite une conversion nécessaire pour tout le peuple et pour toute la société. Il faut agir à tous les niveaux. Voilà ce que Bernard estime. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot, Chantal ou Jacques, sur la
Ben, peut-être
transformation
sur le désir
écologique.
mimétique dont parle Bernard, il faut peut-être rappeler ce que c'est. Alors le désir mimétique, c'est celui qui a été identifié par René Girard, qui est un théologien bien connu, qui consiste à dire que la tendance de l'homme, c'est de vouloir toujours ce que l'autre a. C'est le désir mimétique. Et c'est ce qui provoque les conflits, la jalousie, la convoitise. La haine, la violence, voilà, c'est ce désir mimétique, peut-être pour nos auditeurs, c'était intéressant de le rappeler.
J'ai envie de dire
Oui.
qu'on peut être heureux sans tout avoir, en
Ah
fait.
oui, bien
On
sûr.
peut vraiment être heureux sans tout avoir. Et peut-être que un des aspects écologiques de notre qui jaillit en fait dans notre cœur, c'est de ne pas jalouser en fait et de se concentrer déjà sur ce qu'on a, de déployer en fait ce qu'on a, mais sans chercher absolument à avoir un confort extrême. On dit souvent, quand on regarde souvent des émissions en télé, le monde entier est surpris. Souvent, il y a dans des pays en fait très pauvres, ils sont toujours interrogés par le fait que les enfants qu'ils voient dans une extrême pauvreté sont quand même heureux. Ils ont un visage très, très souriant. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de tout pour être heureux. Et là, le bonheur ne se situe pas dans le matériel. Ça se situe d'abord dans l'être.
Au numéro 17e, nos pères évêques écrivent: Nous catholiques, ajoutons que l'écologie doit être intégrale. Elle ne comprend pas seulement l'environnement de l'humanité, mais aussi la manière dont l'humanité se traite elle-même. Jacques, comment comprenez-vous la dimension intégrale de l'écologie authentique?
Alors j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais ce qu'on pourrait peut-être dire pour insister sur la question qui est importante, c'est qu'il y a deux visions de l'écologie. Donc la première vision, qui est la vision la plus classique, la plus connue, c'est de dire que l'écologie consiste à chercher à produire ce dont nous avons besoin en respectant la planète, c'est-à-dire sans l'épuiser, sans l'encombrer de déchets et sans détruire l'atmosphère. Ça, c'est la vision, je dirais, étroite de l'écologie, bien qu'importante. Mais pour nous chrétiens, cela ne suffit pas. Nous ajoutons que l'écologie doit être intégrale, c'est-à-dire comprise dans le cadre du bien commun, à savoir que tout doit être conçu, aménagé, produit, organisé, non pas en fonction d'intérêts économiques, mais en fonction du respect de la dignité de chaque être humain dans tous les domaines. Alors, les domaines, c'est le respect de la structure familiale. Chacun doit pouvoir vivre dignement, décemment, en famille. Respect de la vérité de la filiation. Chacun doit pouvoir connaître sa filiation, respect de la lutte contre la misère, plus personne ne doit vivre dans la misère, mais dans la dignité, respect d'un habitat digne, tous doivent vivre dans un habitat digne, respect des conditions de vie acceptables, on ne doit pas imposer à certaines populations des conditions de vie insupportables et ensuite, quand ils viennent demander de l'aide chez nous, les rejeter à la mer. Respect des conditions de travail. Il faut que le travail permette à chacun de vivre décemment et de faire vivre sa famille. Ça veut dire qu'il faut faire attention au prix des produits qu'on achète, au salaire qu'on verse aux personnes. Respect du droit pour chacun de se déplacer pour fuir la misère ou les persécutions. Ça veut dire qu'il faut arrêter de mettre des barbelés autour de l'Europe comme le fait l'agence Frontex pour éviter que les personnes viennent nous demander de l'aide. Respect du droit à des conditions de vie décentes. Chacun a droit à un accès à l'eau, à un accès à une vie, à l'alimentation, à ses droits. C'est ce qui fait la différence, d'ailleurs, entre l'intérêt général et le bien commun. On conçoit souvent l'intérêt général, on dit qu'il faut que telle mesure soit prise parce qu'elle est de l'intérêt général. Mais en fait, on fait de l'intérêt général la somme des intérêts particuliers, ce qui fait que c'est toujours les mêmes qui reçoivent les mêmes choses. Alors que le bien commun, c'est de commencer par satisfaire les besoins de toutes ces personnes qu'on vient d'énumérer et qui vivent dans une pauvreté absolument inacceptable pour ceux qui doivent leur venir en aide. Voilà donc ce qu'est la dimension, pour moi, intégrale de l'écologie. C'est-à-dire qu'on ne doit pas simplement avoir le souci de la planète, mais il faut aussi avoir le souci de l'humanité tout entière.
Au numéro 18e, les pères évêques écrivent « Le confinement du printemps 2020 a fait ressortir la différence des conditions entre ceux et celles qui sont logés agréablement et ceux et celles qui vivent dans des appartements trop petits, sans isolation phonique satisfaisante et dans des cités dépourvues d'espaces verts. À quel partage êtes-vous prêt pour permettre à chacun de bénéficier des conditions de vie plus dignes, Chantal ?
Peut-être déjà de... Bon, je suis prête à partager beaucoup de choses, mais on peut regarder en fait au niveau des associations. Il y a des... aujourd'hui, on est quand même entouré de multiples associations qui essayent de vivre un vrai partage avec les autres. Un partage matériel, un partage spirituel pour les associations d'église et un partage humain au niveau de la fraternité. Et ces partages-là sont indissociables si on veut vraiment rencontrer l'être, si on veut rencontrer l'homme.
Alors, l'autre titre, c'est « La France n'est pas une île ». Voilà, au numéro 19e, les évêques écrivent « En tant que catholiques, nous sommes convaincus que la destinée de chacun concerne l'humanité entière. La mondialisation économique et culturelle en cours appelle de la part de tous un effort créatif pour que le respect des histoires, des cultures, des écosystèmes locaux et des personnes l'emportent sur les logiques d'affrontement ou de destruction, de déstructuration. Alors, la question que je peux poser, la toute première, comment contribuer à une construction européenne plus ajustée ?
Oui, ça, c'est une question vraiment d'une brûlante actualité, la construction européenne. Alors peut-être faut-il rappeler que l'Europe s'est construite sur l'idée de préserver la paix. À la suite des fameuses guerres mondiales, des deux premières guerres mondiales, enfin, et des précédentes aussi, qui s'étaient déroulées dans une effroyable logique d'affrontement et de conquête de territoire. Nous pensions, nous les Européens, au moins que cette paix était définitivement acquise au niveau de l'Europe. Ce n'est pas le cas. Manifestement, ce n'est pas le cas. Et cette brutale prise de conscience que nous sommes contraints à faire par l'invasion de l'Ukraine, va, espérons-le, nous aider à repenser l'Europe. Et finalement, c'est heureux. Dans cette effroyable misère ukrainienne, cela peut nous permettre de reconsidérer, de repenser cette Europe, ce sera déjà un gros progrès. Mais le risque, évidemment, reste toujours le même, celui des replis identitaires des États. En cette période électorale et dans l'examen du programme de nos candidats à la présidentielle, il faut bien regarder où sont les replis identitaires et y rester très attentif. Comment repenser l'Europe ? C'est effectivement un enjeu électoral de premier plan. Les programmes des candidats doivent être écoutés et lus à l'aune de notre foi chrétienne, pour nous les chrétiens, sur tout ce qui est question de paix, de respect des droits humains et de solidarité internationale. On ne peut pas continuer à nous replier dans nos petites frontières érigées en barbelés, frontières artificielles, et nous rendre aveugles des misères existantes au-delà. Nous devons réaliser notre construction européenne dans le cadre et avec la préoccupation, je dirais même le souci, d'une solidarité internationale.
Au numéro 20e, il est écrit: les appels prophétiques du pape François en faveur des personnes migrantes engagent les sociétés les plus développées à adopter des comportements d'humanité et de générosité. Alors, quelle part pouvons-nous prendre à un accueil ajusté des personnes migrantes? Bernard estime que d'abord, il faudrait dépassionner et dépénaliser. Donc, il faut évaluer scientifiquement l'immigration. Il faut aussi sortir de la démagogie pour trouver des règles internationales claires. Et pour finir, au niveau local, il faut tendre la main. Voilà, Jacques, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez ajouter, ou Chantal?
Et j'ajouterais en fait qu'on peut, il faut vraiment accompagner en fait les personnes migrantes qui arrivent sur notre terre, mais de façon juridique, évidemment matérielle, spirituelle, et vraiment prendre en charge cet accompagnement. Et,
Alors, moi je rajouterais deux choses sur ce point. Que peut-on faire ? On comprend bien que ce problème d'immigration, c'est un problème crucial à l'heure actuelle et qui ne va pas s'atténuer. C'est évident, parce qu'avec le problème du réchauffement climatique et des migrations climatiques et le problème de la misère avec les crises alimentaires qu'on risque dans les prochaines années de connaître, ça ne va pas s'améliorer. Alors, soit on continue à se protéger, à s'enfermer, à voter pour des candidats qui prônent cet enfermement, mais dans le mot enfermement, il y a le mot enfer, donc je crois que c'est pas bon. Soit on s'ouvre à cette problématique, on se retrousse les manches et on fait quelque chose. Alors, pour faire quelque chose, c'est pas très compliqué. Un, on a le bulletin de vote et il faut bien examiner le programme de chacun des candidats pour voir ce qu'ils proposent sur l'immigration. Et deux, on a, comme le disait Chantal tout à l'heure, des associations locales qui existent et qui viennent en aide aux migrants, envers et contre tout. Et malgré, comme dit Bernard, le délit, le fameux délit de solidarité, dont on est arrivé d'ailleurs à faire reculer le champ, la délimitation, et qui aujourd'hui ne concerne plus que l'aide au transport, donc qui est pratiquement sortie de notre réglementation. Donc il faut, pourquoi pas, adhérer à ces associations d'aide aux migrants, Alors nous avons sur Cahors, hein, puisqu'on est, on est à l'échelle locale, un collectif migrant qui intègre toutes les associations qui œuvrent en faveur des migrants, qui sont localement donc la CIMAD, c'est une association nationale, mais qui a son implantation locale, le Secours catholique, l'association spécifiquement lotoise qui s'appelle Un migrant, l'association aussi spécifiquement lotoise qui s'appelle Jamais sans toi, l'association organisation Quercy Terre de Fraternité qui est située dans la vallée du Lot mais qui fait partie également du collectif, et Amnesty International qui est une association internationale mais qui a une implantation aussi locale. Voilà, il faut peut-être adhérer à l'une de ces associations pour participer à, pour œuvrer, pour ceux qui le souhaitent, à un accueil digne et solidaire de tous ces migrants qui sont dans des situations véritablement épouvantables après des parcours qu'on a peine à imaginer tant ils sont compliqués. Et je crois, pour terminer sur ce point, qu'on ne peut plus raisonner aujourd'hui raisonnablement à l'échelle des nations. Je me souviens d'une très belle phrase d'André Malraux qui disait « Depuis que j'ai découvert la notion d'humanité, la notion de patrie me paraît trop étroite. » Et je crois qu'il avait raison. On ne peut plus raisonner en patriote en disant « Défendons notre patrie contre le monde entier. » C'est vraiment pas humain. C'est tout à fait contraire à notre foi chrétienne, à notre évangile. Donc je crois qu'on ne peut plus raisonner à l'échelle de nos frontières.
D'adhérer à ces associations permettent d'avoir un autre regard sur ceux qui arrivent déjà. Ils nous permettent aussi de mieux connaître l'autre et de sortir en fait de nos peurs. Parce que souvent, on cherche à s'enfermer parce qu'on a tout simplement peur. On ne connaît pas suffisamment l'autre, on a peur. Mais l'autre reste humain. C'est un humain avant tout. Donc, cherchons plutôt à le rencontrer, à l'approcher pour pouvoir entrer dans une vraie humanité. Parce qu'en fait, c'est ça le but de notre vie, quoi. C'est pas rester juste enfermé sur nous-mêmes.
Le tout dernier titre abordé par nos pères évêques, c'est « Transmettre ». Il s'agit bel et bien de la transmission. Alors, au numéro 22e, ils écrivent « À l'approche d'une étape politique importante pour la vie de notre pays, nous ne pouvons pas ne pas nous poser la question qu'allons-nous transmettre aux générations qui viennent ?» Alors, la question que nous pouvons poser, comment sortir d'un certain fatalisme par rapport à l'accumulation des déficits qui met en péril l'avenir des générations qui viennent. Donc là, vous pouvez réagir librement.
Moi, je répondrai en une phrase.
Oui.
Comment sortir d'un certain fatalisme par rapport à l'accumulation de déficits qui met en péril l'avenir des générations à venir? Je dirais tout simplement en abandonnant la course au profit et à la consommation.
Ok, Chantal, vous voulez ajouter un mot?
En s'ouvrant à l'autre. C'est un peu mon cheval de bataille.
Bernard estime qu'il faut dialoguer, il faut parler, il faut donner aussi l'exemple. Voilà. Et c'est vrai que le problème des transmissions, il faut y réfléchir, hein. Parfois, je me pose la question de savoir, voilà, quand je vois bien nos aînés, nos parents, ils ont quand même certains bagages culturels de la société respectés. Et de plus en plus aujourd'hui, si je vois la jeunesse avec l'éducation diffuse, moi, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on transmet? Est-ce qu'on transmet les vraies valeurs ou on transmet des antivaleurs? Ça, ce sont des questions que je me pose. J'ai l'impression, de plus en plus, surtout dans la jeunesse, ce sont des antivaleurs. Avec l'éducation diffuse, tout ce qu'ils apprennent à travers les médias, l'Internet, la télévision, la radio, et ainsi de suite. Donc, ils transmettent tant de mauvaises choses, mais peu de bonnes choses. Je ne sais pas, Jacques, comment vous pensez. Je ne suis pas pessimiste, mais je crains pour l'avenir, pour les générations futures. Et ce sont de telles mentalités qui peuvent avoir aussi des répercussions, même sur la vie politique, sociale, future. Voilà.
Alors moi, je dirais que dans le mot « transmettre », j'en garde que la fin, il y a le mot « être ».
Être, voilà.
Et je crois qu'il faut être. Mm-hmm. Pour bien transmettre, il faut d'abord être solidaire, être attentif, être à l'écoute, être solidaire, être attentif aux plus pauvres, aux plus démunis. Aux plus... Et c'est comme ça qu'on va donner, en quelque sorte, un témoignage de l'existence de valeurs qui seront transmises. Et quand on observe les jeunes, ils sont très regardants sur nos propres attitudes. Et quand ils voient... on a beau prêcher tout ce qu'on voudra à une jeunesse, à notre jeunesse actuelle, si on a un comportement personnel qui n'est pas en phase, qui n'est pas en harmonie avec ce que sont ces valeurs, on n'est pas crédible et on ne transmet plus rien. Par contre, si on vit véritablement la solidarité, l'amitié, la fraternité, l'égalité, l'amour, et qu'on se batte, qu'on agisse pour ça, je crois qu'on devient témoin de quelque chose qui parle aux générations, aux jeunes générations. Alors, les jeunes générations, elles sont très attentives à la solidarité, sont très préoccupées par la solidarité. Il ne faut pas croire qu'elles ne sont pas préoccupées par la solidarité. Simplement, il faut activer tout ça, et on ne peut l'activer que par le témoignage et la cohérence.
En même temps, il y a aussi, aujourd'hui, comme je travaille avec les jeunes, il y en a encore qui n'ont pas envie, il y a un petit reste, j'espère, que c'est vraiment très très petit reste, qui n'ont pas envie de se cultiver, pas envie d'apprendre, et parce que c'est peut-être trop difficile, parce qu'ils ne sont peut-être pas assez accompagnés. Donc j'insiste beaucoup sur le fait de se cultiver, en fait, parce que ça ouvre aussi la porte à bien vivre ensemble. Voilà. Et puis rester vraiment beaucoup à l'écoute de ces jeunes, en plus de les accompagner dans l'éducation, de leur montrer l'exemple. Je suis vraiment d'accord avec ce que dit Jacques. Il faut vraiment être à leur écoute pour pouvoir bien les comprendre et pour bien les accompagner.
En guise de conclusion, nos pères évêques écrivent dans le dernier numéro, numéro 27, « Nous traversons des temps rudes et périlleux. Les échéances qui approchent seront cruciales. Mais la peur est toujours mauvaise conseillère. C'est l'espérance qui ouvre le chemin des choix courageux et salutaires. Dans la foi, nous savons que l'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. » Romains 5, 5. Voilà qui nous encourage et nous oblige à un amour qui se donne de la peine et à une espérance qui tienne bon. 1 Thessaloniciens 1, 3. Merci beaucoup, cher Jacques Allary et cher Chantal Bonnemère. Merci beaucoup à Bernard Miguerou qui a envoyé sa contribution, même s'il est empêché. Et je pense que prochainement, nous allons nous revoir pour peut-être commenter encore, discuter là-dessus. Ce sont des thèmes qui sont d'actualité, qui vont continuer tout au long de notre vie, parce que ça rejoint la société, la vie d'un pays. Merci beaucoup. Merci à la Radio Présence et aux techniciens.
Merci, chers auditeurs.
Merci
à bientôt.
À tous. Au revoir.